France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans les 14, 15 et 16 novembre dernier sur le thème « Qui tient promesse ?»
Qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse.
Aujourd'hui, sixième émission, la promesse comme croyance sociale, avec André Orléans, économiste, suivi d'un débat au cours duquel les spectateurs posent des questions à André Orléans, mais également à Hervé Guillemin, historien, Arnaud Esquer, sociologue, et Michaela Marzano, philosophe, qui sont intervenus vendredi dernier sur le même thème.
André Orléans, vous êtes économiste, un économiste de grand renom, membre fondateur de ce qu'on appelle les économistes atterrés, hein, organisation désormais fameuse, qui essaye de proposer des politiques alternatives et de défendre une certaine conception du pluralisme dans le débat économique. Comme d'autres, André Orléans, vous dénoncez les contradictions, les aveuglements d'une économie mondiale où la finance a une fonction de plus en plus hégémonique, jusqu'à devenir une véritable vision du monde qui rendrait difficilement pensable, dites-vous, beaucoup de projets sociaux et intellectuels. Et face à une théorie économique obsédée par les chiffres, par les statistiques, vous rappelez que les valeurs économiques, comme toutes les autres, sont le produit de relations sociales. La promesse comme relation sociale, les valeurs, non seulement économiques, mais les autres aussi, comme relations sociales, vous plaidez d'ailleurs pour ce que vous appelez une économie des relations, hein, que vous opposez à ce fétichisme du nombre qui structure une certaine économie contemporaine. On peut citer de vous, entre autres ouvrages, « La monnaie entre violence et confiance », co-signé avec Michel Aglietta chez Odile Jacob, ou encore plus récemment « L'Empire de la valeur » au Seuil en 2011. « Le capitalisme n'est plus pour l'instant porteur d'un projet alternatif, même s'il prétend toujours et encore améliorer les conditions de vie », affirmez-vous. Et là, je vous cite « On peut en mesurer le poids lors des élections, toutes gagnées sur des mots d'ordre de gauche, du type « contre la fracture sociale », c'est Chirac en 1995, « travailler plus pour gagner plus », c'est Sarkozy en 2007, « mon ennemi, c'est la finance », Hollande en 2012. Face à cette persévérance, on ne peut qu'être abasourdi, et c'est toujours vous qui parlez, André Orléans, face à cette persévérance, on ne peut qu'être abasourdi de voir avec quelle régularité les directions politiques trahissent leurs promesses une fois au pouvoir. Voilà les origines de la maladie politique française. André Orléans, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez également la parole pour 20 à 25 minutes. Merci.
Merci. Je voulais m'intéresser donc à la question des promesses monétaires, des croyances monétaires, qui sont un type de promesse un peu différent, mais tout à fait dans la continuité de ce à quoi nous réfléchissons au cours de ce forum, parce que ce sont des projets qui, énoncés publiquement, souvent par le politique, se réalisent quelquefois, mais au travers de l'adhésion auquel elles donnent lieu. Donc ce sont des mécanismes, c'est ce type de mécanisme social que je voudrais proposer, de montrer quelques exemples de ces croyances monétaires qui donc adviennent à travers l'adhésion collective des acteurs qu'elles provoquent. On peut parler aussi quelquefois à ce propos de ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire ces prophéties qui se réalisent du fait de leur énoncé. Et c'est leur énoncé qui les produit, et s'il n'y avait pas eu d'énoncé, elles ne seraient pas produites. Et c'est un peu ce type de phénomène un peu étrange sur lequel je voudrais réfléchir avec vous. Et l'exemple que je vais prendre, c'est ce qu'on appelle les miracles monétaires. Les miracles monétaires sont tout à fait ce type de situation, et le terme miracle montre bien d'ailleurs le caractère énigmatique que l'histoire, parce que c'est les populations qui parlent de miracles ou les historiens, donc il y a des miracles parce que ce sont des phénomènes tout à fait étranges, mais il me semble important de les analyser parce que elles mettent en scène une dimension essentielle de ce qu'est l'économie et de ce qu'est la monnaie, une dimension essentielle qui souvent n'est pas mise sur le devant de la scène, et donc c'est pour ça que ça peut être ici intéressant. Alors je vais commencer par en citer un certain nombre tiré de l'histoire monétaire. Le premier qui m'est venu à l'idée, c'est ce qu'on appelle le miracle Poincaré, qui a lieu en juillet 1926, donc je suis obligé de faire un peu d'histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parle-t-on de miracle Poincaré? Parce que nous sommes dans une période, en juillet 1926, nous sommes dans une période de crise du franc. Depuis déjà 3-4 ans, il y a une dépréciation cumulative du franc sur le marché d'échange. Il y a eu un accroissement de l'inflation à l'intérieur de la France. Et que cette dépréciation et cette crise s'arrêtent de manière brutale, et c'est ça qui est un point important de ces miracles, c'est qu'ils s'arrêtent de manière brutale, juste sur le nom de Poincaré, c'est-à-dire avant même que n'importe quelle mesure ait pu être prise et avant même d'ailleurs qu'on connaisse la composition du gouvernement. Donc il y a un phénomène ici qui peut être intéressant. Le deuxième miracle auquel on peut penser, c'est le miracle de ce qu'on appelle le Rentenmark. Nous sommes là en Allemagne à la fin de l'hyperinflation allemande, c'est-à-dire en novembre 1923, et on a un phénomène tout à fait du même ordre. C'est-à-dire que Sauf que la crise allemande, évidemment, la crise hyperinflationniste allemande est bien supérieure dans sa violence extrême à la crise inflationniste française des années 20. Donc on est dans qualitativement une crise, mais une crise d'une ampleur tout à fait énorme. Et à nouveau, on observe ce phénomène étrange qui a tout à fait surpris les contemporains, c'est que cette nouvelle monnaie arrête brutalement tous les phénomènes de spéculation et que du jour au lendemain, une inflation qui pouvait atteindre 50% par semaine s'arrête et qu'on obtient une période de stabilité. Alors même là aussi qu'il n'y a pas de mesures techniques, il n'y a pas de mesures de politique économique qui étaient mises en place. Donc dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à des mutations radicales, très profondes, des anticipations des acteurs, de la manière dont ils se comportent, sous l'effet d'un événement public, d'un événement politique, et de la manière dont le corps social l'interprète et dans l'adhésion auquel il donne, dans lequel il investit ses nouveaux projets. Alors dans le cas Poincaré, ça s'explique d'une certaine manière parce que Poincaré, en France, dans les années 20, en particulier évidemment du côté des classes possédantes, représente le vainqueur de 1918, évidemment, de la Première Guerre mondiale, et aussi le fait qu'il y a déjà eu une crise en 1924 du franc sur lequel son action aussi a été extrêmement bénéfique. Donc on voit qu'il y a un symbole du côté des classes possédantes sur le nom de Poincaré, qui permet de, dans les milieux d'affaires et économiques, de mettre fin à la défiance sur le franc. Pour le Rentenmark, le cas est le suivant, c'est que c'est une monnaie qui est très exceptionnelle parce qu'on est dans une crise absolue et il ne reste quasiment plus aucune crédibilité à la parole publique et on est dans une crise énorme de chômage, de violence, etc. Et que cette monnaie, en fait, va être gagée sur le capital, à proprement parler, c'est-à-dire sur le, c'est un schéma technique qui n'est pas la peine de développer, mais c'est sur le capital, c'est-à-dire à la fois le capital industriel, agricole, commercial, bancaire, que se fonde une nouvelle monnaie. Et que là, en quelque sorte, c'est cette confiance qui n'a plus en Allemagne à ce moment-là comme représentant que ces classes possédantes qui permettent de faire que cette monnaie va circuler et va plus être du tout soumis aux crises inflationnistes que connaissait le mark avant. J'ai une citation ici du ministre des Finances de l'époque. Il écrit « La solidarité des classes productrices qui s'exprime dans l'acte de fondation de la Rentenbank est la meilleure garantie de la confiance qu'inspirera l'instrument de paiement émis par le nouvel institut. » Et on a donc ici ce phénomène de miracle monétaire. Je vais en prendre un troisième qui est plus dans l'actualité, où on retrouve ce même schéma de prophétie autorisatrice, de comment le corps social, à travers soit ses élites, soit ses dirigeants, soit des croyances, se modifie brutalement du point de vue des réalités économiques et monétaires. Ce dernier exemple, c'est celui très récent de Mario Draghi, Comme vous le savez, a fait arrêter, au moins provisoirement, la crise que connaissait l'euro en 2012, une crise des dettes publiques de l'euro en 2012. Donc on était dans une crise assez importante. Vous vous souvenez peut-être, on pensait que l'euro pouvait peut-être éclater. Et elle se traduisait essentiellement par le fait qu'il y avait une divergence très forte de tous les taux d'intérêt des dettes publiques européennes. Et que les dettes publiques, en particulier italiennes et espagnoles, avaient des niveaux qui les conduisaient immanquablement à la faillite parce que c'était insupportable de payer tel taux d'intérêt. Aucune nation n'était capable de le faire. Et il y a une très célèbre déclaration de Draghi en juillet 2012 où il annonce que la banque centrale, alors c'est en anglais, on le cite toujours comme ça, c'est « whatever it takes ». Donc c'est devenu « whatever it takes speech », le discours du « quoi qu'il sera nécessaire ». Donc il dit « la BCE fera quoi qu'il sera nécessaire pour préserver l'euro ». Et cette parole, qui va être suivie par un programme annoncé de rachat illimité de la dette publique, va jusqu'à maintenant, en tout cas, calmer fortement les marchés financiers et faire cesser la crise de l'euro. Donc là, on a à nouveau ici ce phénomène de cette parole publique qui dit « je vais racheter toutes les dettes publiques européennes dès lors qu'il y aura une attaque sur l'une d'entre elles, de façon à faire qu'il n'y ait plus ces divergences de taux d'intérêt. Et grâce à mon action illimitée, convaincue, la crise va s'arrêter. » Et en effet, dans ce cas-là, la crise s'arrête. Alors, donc on a déjà cet effet de profession autoréalisatrice, mais il est encore un peu plus compliqué ici par le fait que il a donc créé ce nouveau programme qu'on appelle programme OMT, Outright Monetary Transaction, et que ce programme, qui est ce programme de rachat, OMT, la caractéristique étrange, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée, ce programme. Il n'a jamais été nécessaire. Et jusqu'à maintenant, jamais aucun titre public n'a été racheté par la Banque centrale au titre de ce programme. C'est-à-dire qu'il a suffi de l'énoncer pour que les opérateurs financiers y adhèrent et n'attaquent plus les dettes publiques. Et ce point est encore plus étrange parce que nous savons que une grande partie de la Banque centrale européenne, en particulier les Allemands, par exemple le président de la Bundesbank, Jens Weidem, était tout à fait opposé à ce politique de rachat dont il pense qu'elle est contraire au traité qui veut faire que la Banque centrale soit indépendante et ne finance pas de manière monétaire les déficits publics. Et donc il y a une très forte réticence du côté allemand et d'autres pays, en particulier même au sein de la BCE, pour contrer ce programme. D'ailleurs, à tel point que Jens Weidmann a été devant la Cour constitutionnelle de Karlsruhe allemande pour qu'elle juge de la constitutionnalité du programme OMT. C'est dire à quel point ce programme qui permet de résoudre pour l'instant la crise, en fait, au départ, est l'objet d'une très très forte défiance d'un certain nombre d'acteurs. Et on peut penser que c'est le fait de ne jamais avoir été mis en pratique qui fait que les tensions, on peut imaginer, si vous voulez, en faisant une histoire contrefactuelle, c'est que s'il avait eu besoin d'effectivement utiliser ce programme OMT, les réticences des pays en question qui ont peur de voir ce financement monétaire des déficits publics, de voir la BCE s'introduire dans le financement budgétaire, eh bien, auraient été évidemment beaucoup plus importants. On avait une opposition, mais cette opposition, elle est moins forte dans la mesure où ce programme n'est pas utilisé. Donc c'est vrai que on sent moins l'urgence, en quelque sorte, de pouvoir aller contre. Et donc on a ici vraiment un véritable paradoxe du point de vue de ces promesses monétaires ou de ces croyances monétaires, puisque elle agit alors même qu'elle ne donne lieu en fait à aucune action, Et même, on peut penser que c'est parce qu'elle n'a donné lieu à aucune action qu'elle a permis d'agir. Donc, il y a là un paradoxe sur lequel vous pouvez réfléchir. D'ailleurs, la cour de Karlsruhe, qui a été donc saisie, a tout à fait critiqué ce programme en disant, je cite, que l'OMT n'est pas compatible avec les droits fondamentaux. La décision de l'OMT ne peut être couverte par le mandat de la BCE. La BCE a outrepassé son mandat. Pour la Cour de Karlsruhe, l'OMT serait une mesure équivalente au financement direct des États. Au financement direct des États serait comme un financement direct des États qui est interdit par les traités. Mais néanmoins, elle a renvoyé à la Cour constitutionnelle puisque ce programme n'avait pas été mis en avant. Donc on a ici un phénomène de promesses qui se réalise à travers des fois des effets très paradoxaux. Au travers, donc, à mon avis, le sens qu'il faut donner, c'est au travers de cette adhésion des acteurs à ces croyances. Alors, je crois que ça nous dit un certain nombre de choses intéressantes, et j'en avais, si j'ai le temps, j'ai trois petits points à mettre en avant. Le premier point, c'est que ça nous montre que l'idée qu'il y aurait une dichotomie quasiment conceptuelle ou épistémologique dans les sciences sociales entre l'économie d'un côté et les sciences sociales de l'autre, c'est-à-dire une économie dont l'objet ce serait uniquement l'objectivité des grandeurs, le calcul des raretés, une espèce de rationalité, la rationalité de l'homo economicus, individualiste, etc. Donc on aurait ce type de faits qui sont les faits économiques et d'autre part des faits sociaux beaucoup plus complexes, qui seraient de l'ordre de la, donc par exemple de la sociologie ou de l'anthropologie, qui seraient des faits collectifs dans lesquels il y aurait deux rôles, le rôle des croyances, le rôle des valeurs. Eh bien, il me semble que les exemples que je viens de donner, tout simple, montrent que ce dualisme ne convient pas et que les faits économiques sont des faits sociaux comme les autres et qu'il n'y a pas de différence de substance. Elles sont la valeur économique qui est l'enjeu de l'ensemble de ces réformes. Il s'agit à chaque fois de rétablir les institutions monétaires, donc de rétablir le calcul, de faire en sorte qu'on sorte d'une crise. Et l'on voit dans ces processus que établir les valeurs économiques, ce sont des processus sociaux dans lesquels on retrouve des formes d'adhésion à des croyances sans lesquelles ils ne pourraient pas fonctionner. Donc le premier point, c'est que ça donne une image de ce qu'est l'économie, qui est un peu plus complexe, me semble-t-il, que, disons, la vision strictement économique. Et moi, je plaide, comme il a été rappelé, pour une convergence des sciences sociales, précisément parce que je ne vois rien de spécifique au fait économique. Le fait économique est un fait social, avec ses phénomènes de croyance. Il n'y a pas que des acteurs qui calculeraient sur des choses objectives. Ça ne tient pas dans la pratique, ne serait-ce que parce qu'on calcule en monnaie et que la monnaie est la production d'une institution sociale. Et donc, ça ne fonctionne pas de cette manière. La deuxième conséquence que je voulais tirer de ça, c'est sur justement ce caractère très particulier de la monnaie dans ces phénomènes. On pourrait dire, au fond, dans le cadre de ce forum, c'est que la monnaie est dans sa nature même une promesse. Elle est la promesse d'un pouvoir d'achat. Elle est la promesse d'un pouvoir d'achat. Et quand vous réfléchissez à cela, on comprend que, c'est-à-dire, qu'est-ce que se dit réfléchir à ça ? C'est-à-dire déjà lutter contre l'idée d'une substance de la valeur, d'idée que la monnaie, ça serait comme que ça serait l'or, le métal, et qu'elle aurait une valeur intrinsèque. Donc, si vous essayez de sortir de cette forme, évidemment, qui est pour nous un peu plus ancienne, parce que nous n'utilisons plus que des billets et plus de métal, mais qui a été un des grands points forts de la théorie économique, eh bien, on voit que ce qui fait que la monnaie a une valeur, c'est le fait que chacun anticipe qu'elle a une valeur. Le fait que moi, j'accepte comme vous-même, vous acceptez la monnaie, non pas tant pour savoir si elle vaut ou pas, enfin, la manière juste dont vous posez le problème pour savoir si elle vaut, c'est si les autres l'acceptent. Et donc, on a dans le phénomène monétaire cette structure très particulière d'interaction qui est cette forme d'intersubjectivité où chacun évalue la monnaie, non pas au prorata d'une vraie valeur qu'on ne voit pas très bien d'où elle viendrait, mais au prorata d'une espèce de promesse qui est une promesse collectivement endossée par le groupe social sur le fait qu'il accepte la monnaie. Et donc c'est important, et ce qu'on voit dans les phénomènes de miracle monétaire, c'est que le corps social, à certains moments, sous l'action évidemment la captation le plus souvent des classes financières et monétaires qui contrôlent le discours monétaire, mais pas totalement. Le Rentenmark par exemple est un peu plus compliqué, mais le corps social a la capacité de modifier sa confiance monétaire de telle façon à avant même qu'il y ait les techniques politiques, etc., qui donnent du temps au corps social. C'est un phénomène un peu de ce qu'on appellerait de bootstrapping, d'auto-transcendance du corps social, qui, en se donnant une confiance dans la monnaie, permet au corps social de sortir de la crise en se donnant du temps, en commençant un nouveau temps zéro à partir duquel on n'est plus pris dans l'ensemble des anticipations inflationnistes. C'est ça qui s'est passé, excusez ces termes un peu, peut-être, j'espère m'exprimer clairement, mais enfin, c'est ce qui se passe dans les crises inflationnistes. On sort de la crise inflationniste brutalement, dans les deux cas, parce que le corps social accepte une nouvelle confiance, un temps zéro qui lui fait sortir de la crise de défiance. Donc c'est intéressant, donc cet objet qui est l'objet monétaire, le rapport monétaire, cette forme de croyance collective, et vous le savez bien évidemment, tous les symboles qui sont porteurs des monnaies sont évidemment tout à fait essentiels, dans le dollar, le In God We Trust, etc., sont toujours essentiels parce qu'ils représentent cette forme de croyance collective. Je ne pense pas qu'il puisse avoir de monnaie, la valeur de la monnaie, c'est-à-dire la confiance qu'on lui prête, hein, que le corps social lui prête, est toujours le résultat d'un récit, le résultat de valeurs mises en avant, et donc il y a toujours quelque chose de très force sociale. Ça n'est jamais uniquement de l'ordre du calcul, c'est de l'ordre de l'adhésion à des valeurs qui font qu'un corps social plus ou moins se représente. Il y en a avec tous les désaccords, les crises que ça peut donner, mais c'est ce genre de choses qui est en cause, évidemment, qui peut donner lieu d'ailleurs aussi à manipulation. Enfin, le troisième point, pour clore, c'est que cette idée-là de la monnaie, expression du collectif, a trouvé en quelque sorte des opposants extrêmement forts et tout à fait argumentés dans la pensée libérale. La grande pensée libérale, justement, je pense à des gens comme Rueff, Milton Friedman, Hayek et d'autres, mettent toujours en avant la rationalité individuelle et le rôle des marchés. Et l'individu, en fait, la souveraineté de l'individu. Or, il y a là, dans la réalité monétaire, si vous suivez mon processus, mon analyse, mon hypothèse sur cette idée d'une promesse collective de valeur qui est investie par le groupe et qui se réalise de cette manière-là, alors vous avez une image très différente, évidemment, de la monnaie. Elle n'est plus simplement elle est l'objet, elle est le moment du collectif, elle est le moment d'une formation d'un collectif, d'une société marchande autour de la valeur monétaire. Et c'est très opposé, évidemment, à l'idée d'une valeur qui serait plutôt intrinsèque, individuelle dans la monnaie. Et je note que ça s'est traduit, et ça sera mon dernier point, dans l'histoire de la pensée et aussi dans l'histoire des faits monétaires, par le fait que la pensée libérale, au fond, a senti, comme n'importe quel économiste pourrait le faire, ces réalités, et a essayé de les neutraliser. Je crois que le grand mot des politiques libérales en matière de monnaie, c'était la neutralisation de la monnaie, c'est-à-dire faire en sorte que ces formes collectives, qui sont très différentes de la concurrence, ne puissent ne pas trop advenir et faire en sorte que la concurrence continue à l'emporter. Et quels sont ces grands mécanismes? Eh bien, aujourd'hui, on en connaît un très important, qui est l'indépendance des banques centrales. L'indépendance des banques centrales, justement, c'est une certaine forme de neutralisation de la réalité sociale et collective de la monnaie, et le remplacer par un pseudo-automatisme qui est l'automatisme du banquier central. Mais tout au long de l'histoire monétaire, on a d'autres formes. L'étalon or a été une manière aussi de neutraliser la monnaie en l'automatisant, en faisant un mécanisme populisme, donc en faisant en sorte qu'elles sortent de l'aura du politique et du débat. Ça a été une première forme. L'indépendance des banques centrales en est aujourd'hui la forme contemporaine. Merci.
Merci beaucoup.
Durant le débat qui va suivre, les spectateurs posent des questions à André Orléans, mais également à Hervé Guillemin, historien, Arnaud Esquer, sociologue, et Michela Marzano, philosophe, qui sont intervenus vendredi dernier sur le même thème.
Première question. Ah mais je reconnais, première je question. Pense, le profil de notre ami serbe, qui est venu voilà. De Serbie spécialement. Mais là, on vous reconnaît très distinctement.
Bonjour.
Allez-y, bonjour. Merci d'être là encore aujourd'hui.
Bon, j'ai une question pour Madame Marzano. Vous avez parlé de l'authenticité et de la reconnaissance dans le cadre d'amour qui pourrait être obtenue par le fait de donner certaines promesses. Promesse d'être soi-même, promesse de respecter l'altérité de personnes aimées. Et ma question sera, n'est-ce pas qu'en faisant de telles promesses, ou par le fait simple de promettre, on entre sur le terrain de la confiance? Une confiance qui juge, qui calcule et qui porte toujours une violence cachée. Pensez-vous qu'on peut se passer de ces promesses et de juste essayer d'une manière proprement amoureuse d'être soi-même, de respecter l'altérité de l'un qu'on aime, etc. Merci.
Merci à vous.
Oui, alors merci beaucoup pour votre question. Alors, alors peut-être je me suis mal expliquée au même temps, parce qu'en fait, quand je voulais dire que il y a une promesse d'authenticité et une promesse de reconnaissance, je ne voulais pas dire que la reconnaissance et l'authenticité doivent devenir une sorte de chape de plomb. Alors, il est vrai que dans le cadre de la promesse entre en jeu aussi la confiance, mais en même temps, que serait-il l'amour? Enfin, comment pourrait-on parler d'amour sans confiance? En sachant que quand on parle de confiance, je ne suis pas sûre qu'on parle nécessairement d'une violence. Finalement, la confiance, c'est quelque chose que, de même que l'amour, on construit chaque après jour. Et chaque jour, jour après jour. Donc, la question de la confiance, elle va de pair avec la question de l'amour, tout en sachant que, évidemment, la question de la confiance, elle n'est pas assurée une fois pour toutes. C'est-à-dire, quand on parle de confiance, on parle aussi toujours d'un saut dans l'inconnu, ne serait-ce que parce que faire confiance signifie miser sur le fait que l'autre va prendre en compte la confiance que je lui ai fait, en sachant que l'effet de faire confiance me met aussi dans un état de vulnérabilité parce que la confiance que j'ai fait peut toujours être trahie. Et si j'ai dit tout ça, c'est parce que évidemment l'effet de promettre ou de faire confiance ne nous met pas à l'abri de la trahison. La trahison est toujours possible. C'est d'ailleurs ceux en qui on a confiance qui peuvent, justement parce que nous avons confiance en eux, nous trahir. C'est qui nous trahit? C'est les maris qui trahissent la femme, c'est les patriotes qui trahissent la patrie, etc. Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, cette personne ne peut pas me trahir, elle peut à la limite me décevoir, mais la déception n'est pas la même chose que la trahison. Donc, si j'ai dit ça, c'est parce que, évidemment, à chaque fois qu'il est question des promesses et des confiances, il y a toujours la possibilité de la trahison possible, mais en même temps, sans confiance et sans promesse, probablement, l'acte même de l'amour qui s'est construit jour après jour n'est peut-être pas possible.
Merci. Monsieur. Merci.
Dans un abécédaire philosophique qui vient de paraître, Nicolas Grimaldi, à l'article Fidélité, oppose à l'acte de foi, qui est un engagement, comme l'indique le nom, les trois objections ou les trois difficultés qu'elle a exposées à propos de la déclaration d'amour. La personne qui s'engage n'est pas certaine de maintenir une adhésion qui repose en grande partie sur le sentiment. Elle n'est pas certaine qu'elle ne va pas évoluer. Et elle n'est pas certaine que la destinataire de la promesse, c'est-à-dire l'institution, ne va pas évoluer elle non plus. Alors la question, c'est que peut vouloir dire dans ce cas de figure la promesse d'authenticité.
Merci.
Alors, attendez, est-ce que vous dites quelle est la promesse d'authenticité dans le cadre de la foi? Est-ce que c'était ça votre question? Alors, oui. Alors, le problème, c'est que quand... Alors, moi, je ne crois pas... Enfin, je crois qu'il y a quand même une différence importante entre la question de la foi et la question de la confiance et de la fidélité dans le cadre des relations intersubjectives. Parce que quand on parle de foi, en principe, pour un croyant, la foi, c'est effectivement, là encore, un saut. Mais c'est un saut à partir duquel on a tendance à croire que Dieu, pour un croyant, est toujours fidèle. Donc il y a une différence fondamentale. Dans les relations intersubjectives, il y a toujours la possibilité que l'autre puisse nous trahir, puisse trahir notre confiance, et donc on rentre dans la trahison de la promesse et dans le cadre plus général de la trahison, là où, dans l'acte de foi, il y a quelque chose de complètement différent, ne serait-ce que parce que l'acte de foi est dirigé, pour un croyant, envers quelqu'un qui n'est pas censé pouvoir trahir notre confiance. Et c'est toute la différence entre Dieu et les hommes. Les hommes, les êtres humains, en tant qu'inscrits dans la finitude, ne peuvent que trahir à un moment ou l'autre, là où, par définition, pour un croyant, Dieu ne trahit jamais. C'est son peuple qui le trahit, comme on lit dans plusieurs passages, d'ailleurs, de la Bible.
Merci.
Alors, j'aurais une question pour Michela Marzano. Est-ce que vous pensez que si l'on ne promet pas en amour, ça veut dire qu'on n'aime pas? Voilà.
Là, c'est toutes des questions très
belle
faciles.
Question, enfin.
Non, ce sont des questions magnifiques et très compliquées. Alors, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que si on ne promet pas, on n'aime pas. Ne serait-ce que parce que l'amour est aussi quelque chose qu'on construit jour après jour. Donc ce n'est pas juste une question d'une promesse, mais c'est quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre. En même temps, quand je parle de la promesse d'authenticité et de reconnaissance et donc de tolérance de l'altérité, je suis en train de parler d'un certain nombre de prémices qui vont pouvoir permettre à la relation de se mettre en place sans faux semblants. Alors, je les répète d'une autre façon. Parfois, on a tendance, quand on aime, à idéaliser la personne que l'on aime. C'est un peu tous les processus de cristallisation dont nous parle évidemment Stendhal. Donc, je l'idéalise et après, quand je me rends compte que la personne ne correspond pas exactement à l'idéalisation que j'ai de cette personne, et ben, hop, je me dis, tout s'est détruit et donc je passe à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est un peu la tendance à dire, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Or, quand j'ai dit promesse d'authenticité et de reconnaissance, signifie que j'essaie de partir du présupposé que l'autre ne correspond pas à l'image idéale que je peux avoir de lui. L'autre, elle ou lui, ne sont pas prince charmant ou princesse charmant, mais ils sont dans leur réalité autre chose par rapport à ce que je pourrais attendre d'eux. Du coup, quand j'ai dit une promesse d'authenticité et de reconnaissance, signifie une prémisse pour pouvoir construire une relation où on n'attend pas de l'autre quelque chose d'autre par rapport à ce que l'autre est. Bon.
Ah, la formation lacanienne, c'est quand même une vraie gymnastique. Hein. C'est un art. Un athlétisme.
Deux questions courtes pour des réponses longues, bien sûr. Une à Hervé Guillemin. D'après vous, quelle est la promesse contenue dans la définition de l'OMS sur la santé, à savoir la santé est un bien-être physique, psychique et social? Quelle promesse derrière ça? Et la deuxième, donc, pour Michel Marzano. Peut-il y avoir un amour sans promesse? Et son corollaire, la promesse est-elle toujours sérieuse?
Hervé Guillemin.
Il me semble que la promesse de l'OMS, c'est une promesse qui est à peu près similaire à celle que font les médecins hygiénistes la fin du 19e siècle pourraient faire, c'est-à-dire non pas seulement une promesse de guérison individuelle, mais effectivement une promesse de bonheur, une promesse de perfectionnement de l'humanité dans l'ensemble de ses comportements, dans l'ensemble des âges de la vie. Et c'est un programme, je dirais, qui est déjà très présent dans l'esprit des médecins hygiénistes de la fin du 19e siècle, auquel on ajoute évidemment le champ de la santé mentale, qui est, je dirais, un développement de la promesse là pour spécifique au XXe siècle.
Merci. Michel Marzano.
Alors, peut-il y avoir un amour sans promesse? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en train de dire, comment dire, il ne s'agit pas du tout de normaliser ou de codifier la question de l'amour. Tout à l'heure, quand j'étais en train de répondre à la question de la jeune lycéenne, je disais, ce sont des prémices. Ce sont des prémices qui permettent. En même temps, ce n'est pas la condition sine qua non, la condition sans laquelle. Par exemple, dans mon livre, j'ai abordé la question de l'amour en racontant l'histoire de la rencontre avec Jacques, qui est celui qui depuis est devenu mon mari, en disant l'histoire avec Jacques aurait pu être comme n'importe quelle autre histoire, donc commencer, rentrer en crise et terminer. Mais en fait, il se trouve que l'histoire avec Jacques a été différente pour quelle raison? Alors, elle a été différente parce que justement, on s'est donné, au fur et à mesure que les temps passaient, des moyens de nous découvrir tels que nous étions et de nous accepter en dépit du fait que, par exemple, moi, Michela Marzano, j'ai plein de défauts, je suis chiante, je suis insupportable, je suis plein de manies, des plein de défauts. Et en même temps, Jacques, lui aussi, il correspond pas du tout à l'image
vous
parfaite.
Vous voyez pourquoi on a mis deux ans à l'inviter quand même. Hein, c'est... Il fallait réfléchir voilà, deux fois.
Absolument, il faut réfléchir deux fois avant de s'engager en quoi que ce soit avec moi, parce qu'après, à la longue, c'est pas non plus évident. Alors, tout ça pour dire que, en fait, il y a toujours, enfin, les histoires naissent de façon souvent différente, mais en même temps, elles commencent à devenir possibles au fur et à mesure qu'il y a cette reconnaissance réciproque et cette tolérance de ce que l'autre est. Évidemment, ça ne vaut rien une promesse d'acceptation si cette promesse est par la suite trahie. Donc oui, deuxième partie de votre question, il peut y avoir des promesses qui ne sont pas très sérieuses, bien sûr, comme toujours dans la vie. Si on prend la promesse que l'on fait souvent en politique, on a tendance à promettre des choses qu'on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir tenir, et c'est par là même qu'on continue à construire une sorte de manipulation de l'opinion publique. Eh bien, la même attitude, on peut l'avoir aussi dans les cadres de l'amour. Je t'ai promis que je t'accepterai toujours, et au fur et à mesure que le temps passe, je te montre que tout ce que tu es m'est insupportable. Alors là, on prend la mesure de comment cette promesse-là n'est pas une promesse tenue et fort probablement est une promesse qui a été faite trop tôt pour pouvoir être tenue aussi.
Merci. Madame.
Je suis désolée, c'est encore pour Madame Marzano. Donc ma question, c'est est-ce qu'il peut y avoir trahison sans infidélité et au contraire, est-ce qu'il peut y avoir authenticité et amour avec infidélité?
Oui. Je pourrais répondre oui. Les deux choses sont possibles. Alors, j'essaie d'argumenter juste un tout petit peu. Il peut y avoir trahison sans fidélité et fidélité sans trahison. Alors, évidemment, tout dépend de la définition des départs que l'on donne au terme en jeu. Si par trahison, on entend, comme je crois, l'effet de faire croire à quelqu'un que rien n'a changé si tout est différent, je peux rester fidèle à cette personne, mais en même temps la trahir parce que les sentiments ne sont plus là. Et donc, par exemple, comme disait aussi Nietzsche, en disant je peux continuer à accomplir un certain nombre de tâches et de gestes qui montrent que la fidélité est là, mais en même temps sont les signes même de la trahison parce que les gestes sont là, mais ils sont vidés de leur sens car les sentiments n'est plus là. Et de même, on peut imaginer qu'il y ait une tromperie sexuelle dans la sexualité, parce que ça arrive, ça nous arrive qu'on puisse effectivement shooter, qu'on puisse commettre des erreurs, qu'on puisse se laisser aller à un certain moment, à un certain désir, mais en même temps, cela n'implique pas nécessairement la trahison à partir du moment où je permets à la personne qui est en face de moi de décider quelle place prendre par rapport à ses gestes. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de l'authenticité. Alors évidemment, là encore, je vous demande pardon parce que je vais tellement vite que toutes mes questions peuvent paraître complètement dérisoires. Mais le problème, c'est que chaque question mériterait un tel développement que j'ai vraiment pas la possibilité là maintenant de les faire.
Alors, une autre question.
Je vous remercie beaucoup d'avoir fait entrer en arène. J'étais très étonnée que personne ne parle de cet article extraordinaire, enfin de ces concepts en arène. Et ça m'étonne toujours. Peut-être que vous avez une explication pourquoi c'est si difficile. Pourtant, en arène, beaucoup de gens connaissent en arène. Et quand il s'agit d'utiliser vraiment, les gens citent comme ça une phrase, mais quand il s'agit vraiment de développer, on aurait pu avoir un exposé parce que ça va tellement avec ce qui se passe aujourd'hui que moi, vraiment c'est une frustration terrible pour moi. Quant à Lacan, je trouve quand même très intéressant parce que Lacan dit en même temps ne pas céder sur son désir. Alors comment concilier ce que vous avez dit en même temps avec cette autre injonction.
Merci beaucoup.
Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, moi, j'ai un amour, un très grand amour pour Hannah Arendt. Pour moi, c'était les points de départ. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais en train de m'éloigner de la philosophie parce que j'ai considéré que parfois, il était un peu trop dans l'abstraction. Et puis, en réalisant Hannah Arendt, je me suis dit, mais finalement, c'est vers là que je vais aller. Notamment, je rappelle juste quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. Vous savez sans doute que Hannah Arendt a refusé pendant toute sa vie l'étiquette des philosophes en disant je ne veux pas qu'on m'appelle philosophe parce que pendant des siècles la philosophie n'a pas été une pensée incarnée et du coup elle explique moi ce qui m'intéresse c'est la pensée incarnée et qu'est-ce que c'est la pensée incarnée pour Hannah Arendt et c'est la pensée qui part qui s'inscrit et qui se développe à partir de l'événement c'est-à-dire ce qui nous traverse ce qui nous bouleverse et ce qui nous oblige à nous remettre en question. Eh bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai redécouvert ça, je me suis dit, finalement, c'est vraiment dans la philosophie qu'il faut que je reste, parce que si j'ai essayé de développer une pensée à partir de mon événement, de celui qui m'a traversé moi, voilà. Alors ça veut dire que ça a du sens aussi pour moi, essayer de repenser cette pensée incarnée, voilà. Alors, sur Lacan, oui, alors, n'est pas cédé sur son désir. Alors, c'est vrai, mais Lacan, il nous dit aussi autre chose. Il nous dit que finalement, l'objet du désir est toujours opaque. Donc, il faut mettre en relation ça, l'opacité du désir avec l'effet de ne pas céder. Alors, comment ne pas céder sur quelque chose qui est opaque? Et je me permets de terminer comme ça sans vraiment vous répondre. Mais vous avez raison, c'est un point très important.
Donc, bonjour, monsieur Orléans. Alors, vous avez beaucoup parlé de la monnaie. Alors donc la monnaie c'est un besoin et plus que ça c'est une relation économique, sociale et humaine. Et vous avez dit que la tendance libérale tend à neutraliser la monnaie, donc à pervertir ou peut-être moindre, à rompre ou à diminuer ce lien. Donc hier on a beaucoup dit que la promesse c'est le propre de l'homme et on a dit que la promesse notamment commence avec la chasse. Alors moi ma question c'est est-ce que la monnaie c'est une matérialisation de la promesse? Avec ce que ça pose de problème de se dire que cette promesse est quantifiable sur un marché, sur une plaque tournante de la confiance.
Je pense pas qu'il y ait une contradiction nécessaire entre l'idée que nous ayons affaire avec la monnaie une promesse et son caractère quantitatif. Parce que d'abord, il faut bien se rendre compte que quand on parle de promesse, quand je parle de promesse monétaire, je veux dire par là que le corps social, qu'est-ce qui fait, à mon sens, la monnaie, c'est l'adhésion collective à une définition particulière de la valeur qui est matérialisée dans la monnaie. Donc là, c'est l'adhésion à l'authentification de cette monnaie, le franc, l'euro, le dollar, comme étant l'expression dans la société de, disons, des valeurs économiques. Et donc c'est ce geste-là qui est le geste premier, qui a le caractère d'une promesse dans la mesure où rien n'assure qu'elle va continuer dans le futur. C'est-à-dire, au contraire, on sait bien que l'histoire monétaire est une histoire faite de conflits, de crises, où on ne croit plus, où les groupes sociaux ont des stratégies pour changer de monnaie, etc., etc. Donc, évidemment, cette promesse peut être ou ne pas être tenue. Mais sur son caractère quantitatif, au fond, ça va dépendre des institutions monétaires. On a plusieurs types d'institutions monétaires possibles. Je dirais que si on prend, par exemple, dans le cas de l'étalon or, avant 14, c'est vrai que la fixité en or de la monnaie était un des éléments cruciaux de la construction même de la confiance dans la monnaie. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un flottement généralisé des monnaies, et donc on peut, on est sans que ça remette en cause systématiquement la valeur de la monnaie. Par exemple, les Américains n'ont jamais été attachés véritablement à l'idée de monnaie forte. Pour eux, la monnaie peut fluctuer tant qu'elle est la monnaie, elle reste la monnaie. Donc, je veux dire par là que la constellation, et c'est ça qui est intéressant, la constellation de croyances et de construction idéologique derrière la monnaie peut être grande. Et elle ne s'exprime pas nécessairement, je dirais, dans une relation quantitative mécanique. Voilà. Et sinon, le fait qu'il y ait du quantitatif, je crois, c'est une grande question, parce que ça a été une des raisons, et c'est tout l'intérêt aussi de votre question, ça a été une des raisons pour laquelle on a voulu faire des faits économiques quelque chose de différent des faits sociaux. C'est souvent, on dit ça, c'est parce que les faits économiques sont des faits quantitatifs, et en cela, ils sont différents des faits sociaux. Je ne le crois pas. Je crois qu'il peut avoir, que le quantitatif, et la monnaie, à mon sens, en est un exemple, appartient aussi à la société. Et le nombre, l'unité de compte, c'est une création sociale qui fait qu'on compte. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'antinomie entre le caractère social et la définition quantitative. Merci.
Merci. Bonjour. Une question pour Monsieur Esquer. Il a développé une de ses idées que je repose sous forme de question. Et s'il pouvait le développer, ne pas tenir promesse, est-ce un problème identitaire ? Merci.
Ne pas tenir promesse, c'est un problème identitaire. Au contraire, je me suis dégagé de cette question de l'identité, parce que ce qui m'a frappé, c'est des différences d'approche, c'est que j'essaye de partir de cas en fait rencontrés dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, d'ailleurs comme le fait André Orléans. Et au fond, cette question de l'identité qui est si présente aujourd'hui, elle se pose de mille questions, mais elle n'est pas, en tout cas telle qu'elle se pose, elle me semble pas se poser avec la question de la promesse posée de manière explicite. Donc je pense qu'il faut pas raccrocher, enfin on peut toujours projeter des choses, mais disons en tout cas telle qu'est ma démarche, c'est-à-dire de partir d'analyses de cas, je n'ai pas de cas dans lequel la notion d'identité est accrochée comme ça de manière très forte et explicite à la notion de promesse. Voilà, c'est une manière d'esquiver un peu votre question.
Non, mais c'est vrai que le lien entre identité et promesse a été fait notamment par Michel Marzano en citant Ricoeur, je crois. Vous pouvez aussi répondre en...
Oui, effectivement, moi j'avais, en citant Ricoeur qui parle du lien étroit qu'il y a entre la capacité de tenir la promesse et la question identitaire, je l'ai un peu introduit ces thèmes. Alors, en sachant que je ne crois pas qu'on puisse répondre oui ou non à cette question, ce n'est pas, ça peut arriver de ne pas tenir une promesse, et cela ne veut pas dire forcément qu'on a un problème au niveau identitaire. Alors, la chose étant que la véritable question, c'est déjà au niveau identitaire, c'est-à-dire l'identité n'est pas quelque chose de fixe, de monolithique et de stable. Il y a évidemment une évolution, il y a un changement. Encore une fois, si je prends les biais du sujet de l'inconscient, les jeux qui dit je promets est un jeu qui évolue tout le temps. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné il y a une promesse qui n'est pas tenue que je aurais été touché au niveau de l'identité. Mais en même temps, ça veut bien dire que la parole doit être à chaque fois contextualisée, parce que ça renvoie à une partie de l'identité de chacun, mais ça peut ne pas renvoyer à une autre partie qui prend la prévalence à un autre moment, au moment successif. Donc c'est une question compliquée, parce qu'il y a l'ambivalence de la parole dans les présents et la complexité du fait aussi que les facteurs temps viennent aussi toucher et impacter la question identitaire. Donc il faut croiser l'ambivalence du présent avec l'aspect diachronique, c'est-à-dire à travers les temps.
Merci. André Orléans voulait aussi vous répondre.
Juste une petite, un nota bene, parce que avec les promesses monétaires, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'elles sont très souvent violées. Au contraire, souvent, le pouvoir monétaire essaye à tout prix de faire croire dans la validité de sa monnaie. Et souvent, il en rajoute. Par exemple, il va créer une loi constitutionnelle, comme ça a été fait en Argentine, qui déclare qu'un peso égale un dollar, ou bien on va mettre... Il y a plein d'exemples de lois monétaires qui sont constitutionnalisées. Mais ça n'empêche pas que le plus souvent, elles sont violées, y compris si on a ces effets de légalisme, et que le pouvoir politique va pouvoir exprimer de cette manière son autonomie par rapport aux règles monétaires. Un exemple qui est frappant récemment, c'est que la présidente Kirchner était en opposition avec son banquier central. Pourtant, légalement, le banquier central était indépendant en Argentine à l'époque, il y a quelques années. Mais elle voulait utiliser la monnaie dont elle disposait pour d'autres choses que voulait pas le banquier central. Et qu'est-ce qu'a fait à ce moment-là le Kirchner? C'est qu'elle a mis un policier devant la banque centrale, et elle a interdit au banquier central de rentrer et pour pouvoir faire son métier de banquier central. Donc on voit à chaque fois que le pouvoir politique a toujours la possibilité de revenir sur la promesse monétaire, quelle qu'elle soit.
Merci. On va prendre deux questions, peut-être trois maximum.
C'est vraiment un détail au sens amélioratif du terme. C'est pour Monsieur Orléans. Je voulais lui demander si, dans la confiance qu'on peut avoir dans la monnaie, les réserves monétaires, les réserves d'or, constituent, un élément qui rationalise la confiance.
Oui, ça a été... Alors, dans le système contemporain dans lequel il n'y a plus aucune règle de convertibilité, les réserves d'or n'ont qu'un rôle tout à fait périphérique. Mais dans les systèmes dans lesquels, comme par exemple dans les talons or ou dans l'entre-deux-guerres, dans lesquels il y avait des règles de convertibilité. Et à nouveau, ça nous renvoie à la question de la promesse, c'est-à-dire que le billet était accepté dans la mesure où il pouvait être transformé en or. Avec toujours cette caractéristique, c'est que il n'y a jamais eu assez de stock d'or pour pouvoir transformer tous les billets en circulation à partir qui étaient en circulation. Donc il y a toujours, vous voyez, dans ces promesses, elles fonctionnent en quelque sorte comme dans mon cas de Draghi, parce qu'on les teste pas. Donc il y a tout un aspect comme ça. Alors de ce point de vue-là, le stock d'or dans ce système-là pouvait jouer un rôle, mais ça n'a rien du tout de mécanique. Ça n'a rien du tout de mécanique, parce que il y a les institutions monétaires et bancaires sont complexes, et donc en effet ça a pu jouer un rôle, mais non mécanique.
Monsieur. Merci. La question pourrait se poser aux quatre conférenciers. Elle concerne la relation entre la promesse et la confiance. Nous avons entendu hier une personne qui disait que le plus grand bonheur, c'est quand on arrive au monde, c'est cette merveilleuse confiance, c'est-à-dire l'enfant qui va poser la tête sur l'épaule de sa mère ou de son père en toute quiétude. Et cette confiance dans la vie, ensuite, en fait, est un leurre. Alors ma question sera plus, pour la poser à tout le monde, Marzano, etc. Je la poserai à M. Guillemin, puisque la santé est fondamentale. Est-ce que vous pouvez, ce discours merveilleux que vous avez eu, est-ce que vous pouvez l'actualiser sur les conflits d'intérêts, particulièrement au niveau du plus haut, la plus haute institution qui est la Haute Autorité de Santé, qui était pour 60% de son budget donné par les laboratoires, et qui avait des gens représentant dans ces laboratoires, dans son organisation, ou dans d'autres métiers médicaux, où c'est fondamentalement les laboratoires, les fabricants qui gèrent l'évolution et les possibilités d'évolution discutées de certaines professions. Je parle des chirurgiens dentistes, je parle des implants, je parle etc. Est-ce que vous pouvez actualiser vos discours? Superbe.
Hervé Guillemin.
Ce qui me semble évident, c'est que ce que vous pointez à travers le rôle des laboratoires finalement est déjà présent au XIXe siècle, me semble-t-il. C'est pour ça que j'ai parlé du 19e siècle, c'est que pour moi, le 19e siècle est vraiment très, très actuel sur les questions de santé. Et ce qui se met en place au 19e siècle est encore en place en grande partie, même si on parle beaucoup de la mort de la clinique, etc. Mais sur ce plan-là, le fait que la médecine s'inscrivent clairement dans la société marchande et industrielle, c'est déjà acté, et Claude Bernard le dit bien, hein, c'est déjà acté au 19e siècle. Donc quoi de neuf aujourd'hui? Évidemment, c'est pas les mêmes fonctionnements, mais voilà, je suis pas, en regardant l'actualité, je suis finalement pas très surpris. Mais les historiens un peu blasés sont sans aucun doute sur plein de points, mais sur ce point-là, je ne suis pas surpris.
Merci. Donc une toute dernière question, intervention.
Dernière question.
Oui, ça va un petit peu dans le sens de la demande du monsieur qui m'a précédé, mais par un autre biais, c'est pour monsieur Guillemin. Est-ce que le fonctionnement de la promesse de guérison s'accommoder un petit peu de la promesse d'amour de Madame Manzano? Est-ce que ça pourrait pas donner une relation, comment dire, une action du patient, une action dans cette promesse de guérison qui est parfois difficile à donner pour toutes les raisons que vous avez expliquées de la part de la médecine et du médecin? Mais est-ce que ça n'augmenterait pas cette promesse de guérison parce que justement le patient serait dans un processus d'authenticité, de confiance, toute la base de l'explication de l'amour de Madame Manzano, parce que je pense que cette relation, même, c'est aussi un acte d'amour.
Je vais répondre peut-être par en situant un exemple qui vous surprendra, mais il me semble que là où ce que vous dites fonctionne très bien au XIXe siècle, et j'en ai peu parlé, j'aurais dû en parler, c'est Lourdes, qui devient le lieu par excellence de la promesse de guérison individuelle et collective à la fin du XIXe siècle, et où là se construit dans le milieu catholique, je dirais, à la fois une promesse de guérison qui va être médicalisée, puisque les médecins catholiques vont être présents très rapidement dans le sanctuaire, il faudra certifier des guérisons, mais en même temps quelque chose qui dépasse cette promesse de guérison individuelle et qui a à voir effectivement avec ce que vous évoquez, c'est-à-dire une forme d'amour dans le sanctuaire de la Vierge Marie de Lourdes. Donc il me semble que là on a un spectacle là de la guérison, un spectacle social de la guérison dans lequel précisément se constitue ce mélange.
C'était le forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui André Orléans, économiste, Hervé Guillemin, historien, Arnaud Esquer, sociologue, et Michaela Marzano, philosophe. Débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son, Georges Thau. Réalisation, Isabelle Huel. Demain, écriture de la promesse avec Gauze, écrivain, Véronique Ovaldé, écrivain, Marie-Gilles, spécialiste des études littéraires.